Le journal Lievin Bringa.
Calendrier électoral, l'heure est aux réactions après sa publication. Certains partis politiques sont pour, d'autres par contre pensent que ce planning devait être fixé en concertation avec les acteurs politiques. Et puis nous reviendrons sur cette attaque des FDLR hier contre une position des FRDC à Katuigourou au Nord Kivu. 8 morts au total, dépopulation fouillée en masse selon des témoins. Plus d'école dans la cité de Mitouaba au Katanga, motif, les enseignants abandonnent tableaux et créent pour des ONG internationales basées sur place. Question de mieux gagner leur vie. Bonsoir à tous. Publication du calendrier électoral. Nous l'avons dit à l'instant, les partis politiques ne partagent pas tous les mêmes avis. Pour certains, comme le PPRD, le MLC, le RCD, les Forces du Futur, seule la commission électorale indépendante est habilitée à organiser les élections. Conséquence, ces partis politiques prennent tout simplement acte des dates fixées pour différents scrutins. Suivez leurs propos.
Il est de la compétence de la CEI d'organiser les élections, fixer la date des scrutins. On nous parle du 30 juillet, nous en prenons acte. Nous n'excluons absolument rien qui puisse faire avancer la cause de l'implication de tous.
La classe politique ne devrait pas avoir des interférences dans l'organisation des élections. Pour nous, la CEI a semblé dire que c'était l'échéance la plus proche au regard des différentes tâches qu'il y a à exécuter. Et je crois que nous ne pouvons que nous plier.
Pour nous, la date est une bonne chose. On sait qu'il y a des gens qui remettent en question cette date. Mais ce qui est extrêmement important, quelle que soit la date, c'est qu'il y ait consensus, comme l'a dit Mgr Mosengo.
La constitution qui régit notre pays donne le pouvoir à la CEI d'organiser les élections. Et donc, lorsque la CEI prend la décision d'organiser les élections au mois de juillet 2006, nous, au niveau des forces politiques, nous ne pouvons que prendre acte de cette décision-là.
D'autres, par contre, ne soutiennent pas ce point de vue. Ils parlent d'une incompétence de la CEI à fixer une nouvelle date des élections au-delà du 30 juin prochain, date officielle de la fin de la transition. Ils proposent plutôt un dialogue entre acteurs politiques afin de revoir ensemble cette date des élections. Écoutez leur réaction.
Nous continuons à être surpris par la légèreté et l'inconscience avec lesquelles la commission électorale indépendante est en train d'aborder des problèmes importants de la vie de toute une nation. Prolonger la transition en violation de l'accord global inclusif et de la constitution de la transition dépasse tout entendement.
Monsieur Maloumalou a fixé les dates des élections au-delà du 30 juin 2006. Monsieur Maloumalou, lui, n'est pas un opérateur politique. Il n'est pas compétent pour prolonger la transition de lui-même. C'est-à-dire que pour nous, nous considérons qu'au 30 juin 2006, l'attention s'arrête et qu'au 1er juillet, il y aura un vide juridique à moins que se tiennent des concertations politiques entre acteurs politiques avant cette date.
La CDR pense que la CEI a outrepassé ses droits et demande à la classe politique, aux dirigeants partisans, de remettre la pendule en l'heure en convoquant des concertations aujourd'hui indispensables.
Tous ces propos ont été recueillis par Mimi Engumba Mulongo. À propos toujours de cette prolongation, la commission électorale indépendante la justifie par de multiples tâches liées à l'organisation des élections. Norbert Bachengezi, deuxième vice-président de la CEI, est joint au téléphone par René Capita.
Nous avons dit que pour commander des bulletins et leur livraison, ça prendrait 42 à 44 jours. Avec tout ce qu'il y a eu comme compression, on est arrivé à 32 jours. Ce qui signifie qu'au lieu de les déposer à 4 endroits comme dans les temps, on va les déposer à 14 endroits. Nous avons dit au Parlement à son temps que le déploiement fait 5 semaines. Ça arrive au mois de juillet. On est temps de déplacer maintenant ce matériel des 166 points où la Monique devrait les déposer, plus les 10 jours que ça doit quitter les chefs-liers des bureaux relais ou les chefs-liers des territoires vers les bureaux de vote, on arrive jusqu'au 27 juillet. L'article 11 de la loi électorale dit que c'est la commission électorale indépendante qui convoque l'électorat. Je ne connais pas une autre institution qui fait les calendriers, c'est la commission électorale indépendante.
Toujours en rapport avec le processus électoral, notez le démarrage ce mardi sur l'ensemble du pays du dépôt des candidatures pour la députation provinciale. Deux partis politiques se sont présentés ce matin au bureau de réception et traitement des candidatures de la cité de Bounia. Pour la CEI Bounia, les partis politiques ont été informés de la date depuis 2 semaines. Reportage de Charlotte Ngungi Selemani.
Aujourd'hui matin, le bureau de réception et traitement des candidatures Bounia a ouvert ses portes comme d'habitude à 8h30. Tous les agents du bureau étaient présents à leur poste. Devant la porte d'entrée du bureau, on aperçoit un communiqué affiché aux valves portant sur les conditions d'éligibilité à la députation provinciale comme définie dans la loi électorale. Les personnes font des allers-retours qui par curiosité et qui pour demander des renseignements concernant les dépôts des candidatures. Pour l'heure, deux formations politiques se sont présentées au bureau de réception et traitement des candidatures pour retirer les formulaires. Nous citons les MLC et PPRD. Selon les témoignages recueillis sur place, déjà les formulaires font défaut. Chose que Jean-Laura Tchekabo Yanga, président du bureau de réception des candidatures, nie. Selon lui, le bureau de réception et traitement des candidatures possède des formulaires, mais pas en grand nombre. Certains partis politiques et associations de la place contactés indiquent qu'ils ont encore du temps car l'opération ira jusqu'au 22 mai. Bounia, Charlotte Ngungi Selemani, Radio Okapi.
Nord Kivu, nouvelle attaque des FDLR contre une position de FRDC, bilan 6 assaillants tués et 2 morts du côté des forces régulières selon les FRDC. Ces combats auraient également provoqué un déplacement massif des populations. Les combats ont eu lieu la nuit dernière dans le territoire de Rutshuru, plus précisément à Katwiguru, à environ 25 km de Rutshuru sur la route de Ichacha. Charles Ntirisha nous dit plus dans ce reportage.
C'est vers 2h du matin, ce mardi, que l'attaque de Katwiguru a été lancée contre le poste des FRDC. Selon les capitaines Innocent Itoko Isunga, commandant du 23e bataillon FRDC, au moins 6 assaillants FDLR ont payé de leur vie dans cette attaque. Les FRDC auraient enregistré de leur côté 2 morts, dont un soldat et la femme d'un autre soldat selon l'officier. D'autres sources parlent du poste des FRDC brûlé par les assaillants et d'un déplacement massif de la population des Katwiguru vers Rutshuru et Kiwanja à 25 km. Hier lundi, l'attaque d'une autre position militaire à Nyamilima, 50 km au nord-est de Rutshuru vers la frontière avec l'Ouganda, a causé au moins 7 morts, tous des civils. Des sources hospitalières font état des 6 blessés admis à l'hôpital de Nyamilima, 25 cases incendiées et 21 pillées complètement. Au moins 2 femmes auraient été brûlées dans leur maison. Les FARDC affirment toutefois contrôler actuellement la situation. Charles Ndurgicha, Goma, Radio Kapi.
Sud Kivu, cette fois, 1 mort et 3 personnes enlevées. Autre bilan d'une nouvelle attaque attribuée aux combattants hutu-rwandais cette nuit à Kavumu, à 35 km au nord de Bukavu. Des assaillants ont mis à sac le village de Kombo et Kakenge aux environs du parc national de Kahuzi-Biega, selon des témoins. Passant de maison en maison, les assaillants ont pillé plusieurs biens de valeur, dont du bétail, selon toujours de ces témoignages. Écoutez justement le témoignage d'un habitant de Kakenge, Amani Lukumbu, et joint au téléphone par Serge Maéché.
L'opération s'est passée hier dans la nuit, c'était aux environs de 22 heures. Ils sont passés dans le quartier, ils ont pillé dans 2 endroits, à Chombo et à Kakenge. À Kakenge, un jeune homme a été tué. 2 jeunes filles ont été emportées avec les chefs de village. Ils ont volé plusieurs choses. Jusqu'à maintenant, le chef de quartier n'est pas rentré. C'était des Interahamwe. Ils parlaient Kinyarwanda. Les militaires ne les ont pas poursuivis. Il y a eu juste plusieurs coups de feu tirés pendant longtemps. Les militaires sont arrivés en retard. Les Interahamwe avaient déjà terminé leur opération.
Enseignement, c'est l'incertitude à Mitouaba, au Katanga. Plusieurs écoles de cette cité ont fermé leurs portes et pour cause, certains enseignants et même un chef d'établissement ont abandonné la CRE pour travailler dans certaines ONG internationales installées dernièrement dans cette localité située à près de 466 km au nord de Lubumbashi. Un responsable du Centre de la coordination de la paix des enseignants de Katanga 1 s'inquiète. C'est un reportage signé Paul Kaboba.
Alors que la cité de Mitouaba reprend du poil de la bête, avec même l'apparition de quelques débits de boissons, l'enseignement, lui, prend le chemin contraire. Les portes de la quasi-totalité des écoles restent fermées. Les enseignants n'ont certainement pas dû se poser des questions pour choisir entre les 13 000 francs congolais que leur paye, selon eux, et d'une manière irrégulière, l'État congolais, et les 40 000 francs congolais qu'offrent plusieurs ONG installées à Mitouaba. Une situation qui ne plaît pas du tout à Nestor Mouchimin-Sosue, le chef de cellule du centre de coordination de la paix des enseignants de Katanga 1.
Les personnels enseignants qui devraient utiliser dans ces écoles sont récupérés par les ONG présents à Mitouaba. Et d'autre part, il y a particulièrement une école secondaire qui est suspendue parce que les locaux occupés par l'entreposage des provisions que PAM dépose pour le besoin des déplacés de guerre.
Selon M. Nestor Mouchimin-Sosue, la solution palliative passe par le recrutement rapide de nouveaux enseignants. Il compte aussi demander au Programme alimentaire mondial d'évacuer ses vivres pour permettre à l'école secondaire et notamment les finalistes de reprendre rapidement les cours. Lubumbashi, Paul Kaboba, Radio Okapi.
Province orientale, Dame la pluie a disparu depuis le début de l'année dans la cité de Bondo, à plus de 500 km au nord de Kisangani. La dernière pluie remonte au mois de novembre 2005. Selon les habitants de cette cité, c'est une des longues sécheresses jamais connues depuis plus de 30 ans. En conséquence, la population de cette cité du Baouélé manque cruellement d'eau et les champs ont séché. Aliana Alipanagama a joint au téléphone un habitant de cette cité de Bondo. Jini Kusongo décrit cette situation.
Au mois de mars, commence la saison des semences des arachides. Comme conséquence, les gens, ceux qui ont pensé qu'il allait pleuvoir comme d'habitude, ont semé des arachides qui n'ont pas poussé. Et les arachides ont séché dans la terre. Alors, autre conséquence, c'est que toutes les sources ont tari. Il y a un problème très crucial d'eau ici, à tel point que les gens se déplacent et font des très longues distances ou alors passent des nuits pour attendre certaines sources. Et qui coule à petites gouttes pour avoir quelques gouttelettes et quelques litres d'eau quand même. Et il y en a qui sont obligés alors d'aller puiser de l'eau de la rivière où elle est et qui ont de l'eau qui n'est pas traitée. Et par conséquent, il y a toutes sortes de verminoses qui battent son plein ici. Donc ils ont des vers, des bilharzioses et d'autres vers.
Direction Mbujimayi au Kasaï oriental, près de 5000 ex-travailleurs de la Générale des carrières et des mines Boud, ils revendiquent leur décompte final 13 ans après leur départ du Katanga. Ces agents se plaignent de n'avoir rien touché comme indemnité de sortie de la part de cette entreprise. Après plusieurs démarches entamées sans succès, ces travailleurs se disent déçus du comportement de leur employeur. Un représentant de ces ex-agents de la GKMIN, Sylvain Mukendi Kalamba, explique au micro de Nikem Poutou.
Nous avons œuvré à la société GKMIN pendant beaucoup de temps. Nous avons vieilli à cause de cette société. Aujourd'hui, nous sommes rejetés comme des oranges dans lesquelles on a tiré du jus. Nous voulons qu'on nous remette en droit puisque c'est stipulé dans les conventions collectives de la GKMIN et aussi dans les codes de travail. Après 13 ans de patience, croyant que nous devions être rémunérés, jusque-là, la société n'arrive plus à reconnaître nos droits. Or, pendant cette période, nous avons appris que ceux qui nous avaient chassés ont eu leur décompte final, hein, et ils ont été considérés comme des départs volontaires. Et nous, qui sommes de départs forcés, pourquoi cette société ne veut pas nous payer nos droits?
Bras de fer entre l'Office des douanes et assises, OFIDA, et le guichet chargé de percevoir des taxes non fiscales au port de Kalundu, en territoire d'Uvira. À l'origine de ce conflit, une vis de procédure dans la mise en application des textes autorisant l'OFIDA à percevoir toutes les recettes fiscales et non fiscales dues au trésor public. Et depuis 4 jours, 9 services de l'État affectés au guichet unique port de Kalundu n'ont pas ouvert les portes. Une équipe d'inspection judiciaire s'est rendue samedi dernier sur place pour trancher le différend qui oppose les deux services. Le point avec Fiston Ngoma Mayabala.
Les points de mire opposent l'OFIDA à 9 services de l'État qui génèrent et perçoivent les taxes non fiscales au poste frontière des Kalundu. Ces 9 services fonctionnaient sous la supervision d'un comptable public. Mais depuis vendredi dernier, l'OFIDA les interdit de fonctionner, revendiquant désormais de percevoir toutes les taxes non fiscales, ce qui a créé des remous et agitations jusqu'à faire intervenir l'inspection de la justice. L'inspecteur local de l'OFIDA, Kalenga Asani.
Ce sont les textes que j'ai avec moi ici, signés par les différents ministres de ces différents services accordant l'autorisation à l'Office de percevoir ces taxes. C'est ce que je suis en train d'appliquer. Je n'ai pas à savoir qui a été informé, qui n'a pas été informé. Ce n'est pas mon travail. L'opérateur qui aura à déposer son argent hier, il va payer doublement. Je vais continuer à bloquer la marchandise dans les entrées.
Pour les comptables publics subordonnés du guichet unique, Bahati Katunju, il faut qu'il y ait une notification officielle du gouverneur des provinces.
Nous, nous savons que chacun est venu ici et a été mandaté par un pouvoir, une autorité. Il y a des textes qui nous placent ici. Nous avons dit, si cela est vrai, il fallait donc qu'on nous envoie des textes qui nous demandent de cesser de fonctionner. Ce n'est pas des ordres verbaux que nous pouvions accepter. Nous avons par exemple le monsieur le gouverneur qui va nous notifier pour dire, parce qu'il nous avait placé ici, pour dire que désormais vous cessez de fonctionner. En dehors de ça, nous serions qualifiés de déserteurs si on doit partir.
Dans l'entretemps, l'inspection judiciaire d'Ouvira a convoqué tous ses services concernés ce mardi pour trancher les différends. Cela en attendant les textes devant clarifier les nouvelles attributions des uns et des autres. Fiston Ngoma Mayabala, Uvira, Radio Okapi. Okapi. Okapi.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Au nom de Jean-Claude Toumba Kamanga, de André Kitenge, de Paulin Mouenkeyo, je vous dis merci de l'avoir suivi.